archives de l'écologie. François Bernard.
Bonjour, merci de nous accueillir à l'écoute des archives de l'écologie. Nous puisons dans les archives de Fréquence Terre, une émission sur l'environnement produite par Radio France Internationale durant une dizaine d'années autour de l'an 2000. Les problématiques d'aujourd'hui, le réchauffement climatique, la pollution, la prédation, sont déjà au cœur des débats de l'époque. On se rend compte, semaine après semaine, que les améliorations sont à la marge et que les problèmes restent entiers. En tout cas, les solutions sont difficiles à trouver et la tentation est forte de faire appel aux individus, vous, moi, nous tous, en conscience pour adapter notre comportement aux nouvelles exigences écologiques. Dans les années 2000, on appelait ça la planète attitude. Et des exemples de planète attitude, il y en a beaucoup dans l'archive que je vous propose aujourd'hui. Alors écoutons ce reportage, voyons ce qu'on peut faire à titre individuel. On se retrouve dans 20 minutes pour en parler.
Fréquence Terre, Arnaud Jouve.
Bonjour à tous. Jamais dans l'histoire de notre planète, l'impact de l'homme sur la nature n'a été aussi problématique. Nous devons aujourd'hui faire face à des défis écologiques sans précédent qui nécessitent un changement important de nos modes de fonctionnement. Les politiques, les associations et tous les acteurs de nos sociétés doivent agir dans ce sens et nous devons les y encourager. Mais pour que notre développement soit durable et pour que nos enfants puissent vivre en harmonie avec la nature, nous devons avoir un comportement écologiquement responsable. C'est en substance ce que préconise le WWF, le Fonds mondial pour la nature, à travers un ouvrage de Gaël Boutier-Guérive et de Thierry Touvenot intitulé « Planète Attitude » aux éditions du Seuil. Un texte d'information et de conseils pour avoir des gestes écologiques au quotidien qui propose un art de vivre né d'un constat sur notre empreinte écologique. Explication de Thierry Touvenot.
On parle beaucoup de développement durable depuis une bonne dizaine d'années. Il y a eu, par exemple, le sommet de la Terre à Johannesburg il y a 2 ans. Et donc, que ce soit les hommes politiques, les chefs d'entreprise, les citoyens, tout le monde se sent bien qu'il y a un problème au niveau de la situation écologique et sociale. Mais bon, nous, on s'intéresse plutôt à la situation écologique. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer de mettre mettre des chiffres un petit peu derrière cette dégradation de l'environnement que tout le monde sent. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a la déforestation, les changements climatiques, ce genre de choses, mais on a essayé de mesurer un petit peu tout ça. Et donc on a développé un indicateur qui s'appelle l'empreinte écologique, qui permet d'estimer l'impact de l'homme sur la planète. C'est un outil qui permet d'évaluer quelle est la surface dont on va avoir besoin pour à la fois produire les ressources qu'on va consommer, donc pour nous habiller, pour nous nourrir, mais aussi pour absorber tous les déchets qu'on va produire, y compris le gaz carbonique qui crée l'effet de serre. Et donc on va accumuler comme ça tous les besoins qu'on a, et on va arriver à un chiffre global qui est la surface dont on a besoin. Donc en tant que Français, par exemple, on arrive comme ça à estimer qu'on a besoin d'un peu plus de 5 hectares pour nous nourrir, pour nous vêtir, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est de comparer ça à d'autres pays. Si vous êtes un Malien, par exemple, votre empreinte écologique va être 10 fois inférieure à celle d'un Français. À l'inverse, un Américain, un Nord-Américain, va avoir besoin de 10 hectares, donc 2 fois plus qu'un Français pour vivre sa vie de tous les jours en tant qu'Américain moyen. Donc ça, c'est lié, par exemple, à un usage assez développé du 4x4, de l'avion, de grosse consommation de viande, ce genre de choses. Donc là aussi, on ne veut pas dire que le mode de vie américain est critiquable, mais simplement, son impact sur la planète va être 2 fois supérieur à notre impact en tant que Français. Alors, autre élément qui est intéressant, c'est que si on regarde l'évolution de l'empreinte écologique depuis qu'on la mesure, donc depuis une quarantaine d'années, ce qu'on constate, c'est que l'empreinte écologique globale de l'humanité, la demande en fait qu'on fait peser sur la planète, a doublé en l'espace de 40 ans et qu'elle a dépassé en fait la capacité de la planète depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, on est dans une situation de surchauffe, en fait, de dépassement des limites. On est vraiment comme un foyer comme un ménage qui gagnerait, 2000 euros par an et qui en dépenserait 2400. On dépasse aujourd'hui d'à peu près 20% les capacités de renouvellement naturel de la planète.
La question, c'est que faire face à ce constat ?
Je crois qu'il est important de dire qu'on peut agir à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on peut agir en tant qu'individu, en tant que particulier, donc en tant que personne qui utilise les transports, qui va acheter des produits, ce genre de choses. Donc ça, c'est important. Et je crois qu'il est très important aussi de rappeler que tout ne peut pas être fait par l'individu. C'est-à-dire qu'on est dans une société collective et donc il est fondamental que les politiques prennent leurs responsabilités, que les chefs d'entreprise prennent leurs responsabilités et donc que chacun à son niveau intervienne. Mais nous, ce qu'on a voulu faire, c'est se concentrer sur qu'est-ce que nous, en tant qu'individu, en commençant par soi-même, qu'est-ce qu'on peut, comment on peut influer ce jeu-là, quoi.
Comment agir individuellement face aux grands enjeux de ce monde ? La réponse préconisée par la Planète Attitude est de dire « Utilisez les pouvoirs dont vous disposez en ne consommant, par exemple, que ce qui vous paraît écologiquement acceptable. Vous vivrez mieux et vous amènerez les entreprises à s'adapter à votre demande et donc à mieux préserver la planète. »
Premier secteur qui a le plus d'impact sur notre empreinte écologique, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que par les fruits, les légumes, les produits qu'on va acheter en magasin ou au marché, bah on va avoir un impact direct sur l'environnement parce que ces aliments, il faut les produire. Aujourd'hui, on est dans un pays en France qui a privilégié l'agriculture intensive. L'agriculture bio ne représente qu'un peu moins de 2% aujourd'hui en France. Et donc cette agriculture intensive, son bénéfice, c'est qu'elle permet de produire en masse des aliments, mais sa contrepartie, c'est qu'elle a un impact très très fort sur l'environnement. D'abord sur l'eau douce, c'est-à-dire que l'agriculture va utiliser des nitrates, des insecticides, des pesticides qu'on va retrouver directement dans les rivières, dans les nappes phréatiques, dans les zones humides. Et ça, c'est un impact considérable sur la richesse des milieux naturels. Deuxième impact, l'agriculture est de plus en plus consommatrice de pétrole pour faire tourner les moissonneuses batteuses, etc. Enfin, toutes les machines qui permettent cette efficacité-là. Et donc, ça veut dire des gaz à effet de serre et donc du changement climatique. Et ensuite, il y a un impact qui est aussi induit par l'alimentation, qui est assez caché, en fait, dont on ne se rend pas toujours compte, qui est lié au transport des aliments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans votre supermarché, vous allez acheter... En France, comme ça, on a pris l'habitude, au supermarché, on trouve ça normal d'avoir des fraises en hiver, d'avoir des asperges, des choses comme ça. Et en fait, ces produits, soit sont fabriqués, sont produits dans une culture hors sol, hein, donc sous serre, chauffée, donc avec des besoins très, très importants en termes d'énergie, soit viennent de pays lointains. Par exemple, les fraises vont venir d'Afrique, d'Amérique du Sud, de je ne sais où. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que, par exemple, pour faire venir un kilo de fraises en France, il faut, en moyenne, en hiver, il faut 5 litres de gasoil. Donc, on va retrouver directement dans le prix. Donc, ça, c'est une première chose, mais surtout qu'on va retrouver dans l'atmosphère. C'est-à-dire que pour trimballer ces fraises, eh ben, il a fallu les faire venir. Et donc, on va avoir un effet direct sur l'environnement. Donc, tout ça pour dire que nous, ce qu'on préconise, ce n'est pas de changer considérablement nos modes d'alimentation, mais c'est de réfléchir un petit peu, d'être conscient en fait de son impact. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcé en hiver, personne ne nous met un pistolet sur la tempe en hiver pour acheter des fraises. On peut très bien privilégier des légumes de saison. Je pense qu'en France, par exemple, il y a tout un retour en ce moment de ce qu'on appelle les légumes rustiques, enfin que ce soit les topinambours, les rutabagas, ça revient pas mal à la mode, hein, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et donc ce sont des produits de saison dont l'impact sur l'environnement va être moindre de façon très très importante à cause des transports et à cause de l'énergie pour les produire. Donc nous, ce qu'on dit, c'est important de privilégier aussi des agricultures comme l'agriculture biologique. En fait, un des principaux bénéfices de l'agriculture biologique tient aussi au fait que son impact sur l'environnement est nettement moindre, puisque l'agriculture biologique, dans son cahier des charges, demande à ce qu'il n'y ait pas de traitement chimique sur les produits qui vont être produits. Donc l'impact sur l'environnement va être nettement inférieur. Thank you.
Parmi les grands sujets de préoccupation, il y a évidemment l'énergie, un secteur aux multiples impacts environnementaux que nous résume Édouard Toulouse, chargé de programme énergie au WWF France.
L'énergie est vraiment un sujet très inquiétant et vraiment un sujet très important pour les personnes qui s'occupent de protection de la nature, puisque au niveau mondial, la consommation d'énergie augmente, notamment dans les pays qui se développent. Or, cette consommation s'accompagne de beaucoup de pollution, notamment des rejets de gaz carbonique qui modifient le climat. Donc ce changement climatique pose un grand problème mondial. Au niveau de la communauté internationale, le protocole de Kyoto est censé aider à lutter contre ce dérèglement du climat, mais il faut que des mesures soient mises en place partout. Donc lorsqu'on voit cette croissance de l'énergie, la meilleure réponse à apporter, c'est d'arriver à répondre aux besoins de l'humanité en consommant beaucoup moins d'énergie, c'est-à-dire en étant beaucoup plus efficace. Et ça, c'est possible aujourd'hui. C'est possible d'une part grâce à des technologies plus efficaces d'utilisation de l'énergie, grâce à des technologies plus propres comme les énergies renouvelables. Et ça nécessitera aussi un comportement différent de tous les consommateurs vis-à-vis de l'énergie.
Il y a aussi la question des transports, avec tout ce que ça génère comme problème, comme pollution. Il y a l'eau, que ça soit sur le plan quantitatif ou qualitatif, qui est aussi une grande préoccupation sur laquelle nous pouvons aussi agir individuellement. Et puis, moins souvent évoqué, il y a tout ce qui concerne le vivant, que nous résume Didier Moreau, chargé de mission sur la conservation des espèces animales et végétales menacées au WWF.
La conservation des espèces animales et végétales en fait, touche notre quotidien directement ou indirectement. Souvent, on a du mal à le voir, mais il faut prendre conscience qu'on utilise les espèces pour l'alimentation, pour s'habiller. S'habiller, on pense au cuir, par exemple. Quoi. Donc, je disais, pour l'alimentation, beaucoup en pharmacopée. Il faut prendre conscience que même s'il y a beaucoup de molécules, de synthèse, une partie extrêmement importante encore de la pharmacopée mondiale provient directement des espèces donc, qui sont récoltées dans la nature. Et que donc toutes ces consommations d'espèces sauvages a un impact finalement sur les ressources dans la nature de ces espèces. C'est le cas par exemple des espèces marines, où pour la grande majorité, on n'a pas de moyens de les cultiver, enfin, comme on pourrait cultiver des plantes. Donc ça veut dire que c'est les ressources qu'on utilise à partir de ces espèces, hein, que ce soit des poissons, par exemple, et je pense en particulier aux requins, qui sont des espèces extrêmement menacées, dont on utilise les cartilages, par exemple, à des fins thérapeutiques, mais pas seulement dans la pharmacopée chinoise, même chez nous, dans les médecines dites naturelles, on utilise des produits comme ça, qui contribuent à détruire des espèces qui sont globalement menacées. Et bien sûr, il n'y a pas d'alternative sinon de chercher des produits de substitution, puisque ces espèces, on ne peut pas les élever en aquarium. On a le cas, je dirais, plus général du commerce des espèces dites exotiques qu'on utilise pour satisfaire notre propre exotisme, à avoir un poisson exotique dans un aquarium ou un animal en cage chez nous, quoi, qui très souvent est également issu, prélevé dans les milieux naturels. Et on a ainsi des populations entières d'animaux qui sont décimées, même si, in fine, quand on va dans un magasin acheter un petit animal exotique, ça se fait dans la légalité, mais ce n'est pas pour autant que ça n'a pas un impact directement dans la nature. Donc on a globalement, à travers notre consommation quotidienne, qu'on achète un produit quel qu'il soit, alors à plus forte raison, bien sûr, si on achète directement un animal exotique, là où il faut vraiment se poser vraiment la question de l'intérêt d'acheter un tel animal, de façon plus sournoise, on voyage, on dit tiens, il y a un petit objet là sympathique, et puis en fait c'est une écaille de tortue, et les tortues marines sont des espèces menacées. Ou bien un bel objet, en fait, c'est quoi ? C'est de l'ivoire, et l'ivoire, ça vient de l'éléphant ou de rhino, et ce sont aussi des espèces menacées. Donc, aussi bien chez soi, quand on va faire ses courses dans un supermarché ou quand on va voyager, on dit tiens, on va ramener tel ou tel souvenir, il faut faire très attention, puisqu'en fait, l'utilisation des espèces animales et végétales est partout.
Thierry Touvenot, pour conclure.
Alors, à un niveau plus général, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tant que citoyen, on a trois pouvoirs, en fait. On a le pouvoir de notre porte-monnaie, donc de notre consommation, qu'est-ce qu'on achète, et donc l'impact que ça va avoir sur les fabricants. On a le pouvoir de notre bulletin de vote, donc pour qui on vote, et donc l'impact que ça va avoir sur nos élus. Et on a aussi l'impact de la façon dont on investit notre argent. Et ça aussi, dans notre société, ça a de plus en plus de poids. Donc, pour reprendre ces trois éléments, au niveau de la consommation, moi, ce que je crois vraiment, c'est qu'au bout du compte, on a le choix. C'est-à-dire qu'on a toujours le choix d'acheter, par exemple, un produit qui va être super emballé, avec beaucoup de marketing autour, et d'acheter un produit qui est plus simple. On peut très bien acheter des céréales en vrac à la pesée ou acheter des céréales avec une boîte très décorée, etc., qui va générer beaucoup de déchets et qui va être plus cher, d'ailleurs, entre parenthèses. On a toujours ce choix-là. Un autre exemple, si on achète du poisson, il y a aujourd'hui des tailles minimales de poisson que doivent respecter les pêcheurs pour éviter d'avoir des pêches trop juvéniles et donc de mettre en danger les ressources de pêche. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'acheter un poisson qui est trop petit. Personne ne vous force à le faire. Par contre, vous avez le choix de dire à votre poissonnier, votre poisson est trop petit, j'en prends pas. Je vais voir un autre poissonnier. Et ça, de fait, ça va avoir un impact qui va être répercuté sur votre poissonnier et sur vos producteurs. Donc je crois vraiment que là, il y a à réfléchir et en fait à faire jouer le choix dont on a le choix qui nous est offert. Je prends un dernier exemple qui est intéressant. Aujourd'hui, une perceuse dans un ménage est utilisée en moyenne une demi-heure par an. Donc c'est ridicule. Beaucoup de ménages ont des perceuses chez eux et cette perceuse, on ne l'utilise jamais. Donc rien ne vous force à l'acheter. Par contre, vous pouvez très bien décider d'aller la louer ou d'aller l'emprunter à votre voisin. Et là, vous allez économiser toutes les ressources et l'énergie pour fabriquer ce genre de produit. Alors, ça c'est pour la consommation. Deuxième vecteur important, donc c'est la façon dont on investit son argent. Aujourd'hui, de plus en plus, on peut choisir, même chose, on a cette question de choix, on peut choisir on peut choisir d'investir son argent dans des entreprises qui font n'importe quoi au niveau social ou au niveau écologique, ou on peut choisir d'investir dans des fonds qu'on appelle des fonds éthiques qui sélectionnent des entreprises en fonction de critères sociaux et environnementaux. Donc ça a de plus en plus de poids. Il faut faire attention, les fonds éthiques ne sont pas toujours bien cadrés, donc il faut bien choisir son fonds éthique. Donc là, pareil, discuter avec votre banquier, essayer de savoir ce qu'il y a derrière. Mais on peut choisir d'investir son argent dans des entreprises qui sont les plus à la pointe au niveau de la protection de la nature. Et donc, dernier choix qui est offert aux citoyens, c'est de voter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une désaffection des bureaux de vote, mais au bout du compte, c'est quand même nos élus, que ce soit notre maire, que ce soit notre conseiller régional, notre président de la République, qui vont avoir les leviers pour faire bouger les choses à ces niveaux-là. Donc il ne faut pas hésiter à voter. Tous les partis politiques ont des programmes liés aux questions écologiques. Donc il faut regarder ces programmes-là et il faut choisir en connaissance de cause. Et puis on peut aussi directement interpeller son élu. Bon, je pense en particulier au niveau de son maire. Il y a des décisions importantes qui sont prises. Choisir un incinérateur par rapport à une politique de recyclage, ça a un vrai impact. La façon dont le retraitement des eaux va être fait, ça a un vrai impact. Donc là aussi, ne pas hésiter à interpeller ses élus. Et puis aussi à interpeller son banquier et à interpeller aussi les chefs d'entreprise à travers son mode de consommation. Voilà, et nous, l'appel en fait qu'on aimerait lancer, c'est de dire voilà, à chacun d'inventer, de trouver sa propre planète attitude pour faire en sorte que la planète qu'on habite aujourd'hui et celle que nos enfants vont habiter soit la plus vivante et la plus agréable possible.
toute l'équipe de Fréquence Terre, à Sierra Leeds, Stéphane Schiers et Arnaud Jouve, vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres regards sur notre environnement en partage. Bonne semaine à tous.
Voilà, reportage réalisé en février 2004. Et bien sûr, devant l'énormité des problèmes écologiques, les engagements individuels semblent dérisoires. Pourtant, ils sont indispensables. Il faut que chacun expérimente les efforts nécessaires pour réorienter ses habitudes et les rendre plus économes, plus conscientes des impacts qu'elles ont sur notre environnement. Mais il faut le reconnaître, si la conscience environnementale s'est développée au cours de ces 20 dernières années, elle ne se traduit pas toujours par des changements de comportement de la part des individus. Changer ses habitudes n'est ni facile ni plaisant. En plus, l'attention à un problème peut diminuer en période de crise. La priorité accordée au climat, par exemple, s'est réduite récemment en raison des guerres et des difficultés économiques. Une consolation peut-être devant ce constat pessimiste, la planète attitude reste une valeur forte, partagée, et les jeunes générations sont les plus engagées. Voilà, c'est tout pour cette 34e édition des Archives de l'écologie. Merci de votre fidélité sur Alternante en direct ou en podcast sur le site alternantefm.fr où vous pouvez laisser vos commentaires. En ce qui concerne notre chanson du jour, prenons le contre-pied des mauvaises nouvelles ambiantes. Accordons tout l'espace à la poésie, à l'espoir, au talent, avec un hymne bien connu désormais, à la beauté du monde. Un monde merveilleux, a wonderful world, comme le décrit si bien Louis Armstrong. I see trees of green. À la semaine prochaine. Red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. Like much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.